Bonjour à tout le monde. Tout le monde. Et merci, hein, groupe de louanges. Merci pour cette présence incroyable et le fait de rester aussi, prendre le temps de rester. Elle est où, Chloé? Merci, hein, Chloé, de nous avoir fait rester. Il y a quelque chose qui vient dans notre cœur quand on prend le temps de rester. Et puis, c'est extraordinaire quand même, le torrent qui coule, la vie, quoi, c'est extraordinaire, hein. Et puis la façade, je trouve que par rapport à ce que je veux dire, c'est tout à fait adapté, vous verrez. Alors, vous savez, dans la Bible, on a chacun de nous des chouchous. Je ne sais pas si vous avez des personnages chouchous. Hein, vous êtes d'accord? On a chacun de nous, selon notre profil, notre tempérament, des chouchous. Je ne vous donnerai pas les miens, mais chacun de nous. On fera le tour, là. Tout le monde a des chouchous différents. On se sent bien. Oui, ça nous parle. Du nouveau caractère, il y a des atomes crochus. Voilà. Et puis, il y a les autres. Et les autres, le Saint-Esprit a besoin de nous dire, là, celui-là. Oh, tu crois celui-là. Donc, c'est venu de Jérusalem, il n'y a pas très longtemps. Parole de Jérusalem, il y a des paroles fortes de Jérusalem, hein. Tout vient de Jérusalem, qui a dit, là, celui-là. Ah, et là, celui-là, il y a les images d'Épinal, hein. Bon, je vous fais deviner. Alors, ceux qui savent, c'est en plus, c'est une partie de mon nom de famille. Alors, c'est qui? De qui vais-je parler? De toute façon, il n'y a que deux choix possibles. Hein. Qui? Ça peut être qui? Voilà, Marguerite, elle a tout juste, c'est Élie. Première fois hein, que je traite sur Élie. Pierre Élie, hein, Élie, voilà. Voilà, Élie. Et puis, le Seigneur serait pris vraiment. Élie, oui, d'accord, oui, Seigneur, j'obéis. Élie. Alors, Élie, ouh là là, Élie. Donc, depuis 15 jours, je suis dedans, là. Élie. Et puis, waouh, Élie. Ça nous parle énormément. Merci, Seigneur, pour le soleil. Merci, Vito, d'avoir prié. Petit souvenir d'un mariage, hein, ma reine. Allez, vous. Voilà. Donc, Élie, le contexte d'Élie. Alors, bon, vous avez tous des images d'Épinal d'Élie. Hein. Le contexte. Et là, ça nous parle, les amis. Ça nous parle. Le contexte catastrophique. Vous le savez, hein. Le royaume d'Israël, il est coupé en deux. Israël, le royaume du Nord, il a zéro bon roi. Ils sont tous mauvais. Tous. Et le pire du pire du pire. Eh ben, c'est quand Élie était là, quoi. Le pire du pire, Akab. Donc, voilà. Et puis, alors, le peuple de Dieu, soi-disant le peuple de Dieu, il mélange allègrement sa foi hébraïque, la foi dans le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il la mélange avec les Baals, les divinités de tous les pays autour, voilà. Un gros mélange. Ça vous parle quand même, hein. Avec des ismes, si je vous rajoute des ismes. Toutes les idéologies en isme, on mélange ça à sa foi chrétienne, hein, traditionnelle, voilà, et ça vous fait à peu près une bonne partie du peuple de Dieu en France, hein, voilà, tous les ismes, donc pareil, mélanger. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il y a une énorme majorité qui est là-dedans, hein, la foi traditionnelle, et puis beaucoup de ismes, beaucoup de Baal, beaucoup de croyances bizarroïdes, dans des tas de choses. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des résistants. Appel du 18 juin, vous pouvez regarder en replay, hein, appel du 18 juin à la résistance. Donc, des résistants. C'est un peuple prophétique, des prophètes, un peuple prophétique résistant, dont Élie. Mais il n'était pas le seul. Hein. Tout un peuple de résistants, prophètes. Donc, c'est-à-dire à l'écoute de Dieu, aligné avec Dieu, etc. Et puis, ce qui est particulier, alors on va dire, des prophètes, il y en a eu pas mal depuis Samuel, hein, il y en a eu plein dans le peuple de Dieu d'Israël. Et puis des Baals, ça fait longtemps, hein. Si vous lisez les juges, il y a des Baals partout, hein. Le père de Gédéon, il croyait en Dieu, et puis dans les Baals, enfin, c'est le gros mélange, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est spécifique à l'époque d'Élie? Ce qui est très spécifique, c'est que maintenant, le pouvoir en place, Akab est sous l'influence de Jézabel, et là, c'est une hostilité déclarée, ouverte, je dirais stratégique. On veut absolument éradiquer toute présence prophétique. Ça, c'est visible. C'est exactement ce qui se passe maintenant, y compris dans l'éducation. On veut éradiquer, absolument déraciner, détruire tout ce qui a trait à la foi. Ça, c'est ouvert. Maintenant, bas les masques, si je peux me permettre. Bas les masques, c'est ouvert. Et là, c'est quand même particulier à cette époque. Bon, dans l'histoire de France, on a eu ça encore. Hein. Louis XIV, par exemple, hein, pour ne pas le nommer, il a fait exactement ça aussi. Mais voilà, ça, c'est très particulier parce que maintenant, c'est ouvert. C'est une hostilité déclarée qu'on voit à travers des tas de projets de loi. Vous voyez, une hostilité déclarée. Et qu'est-ce qui se passe parallèlement à ça? Ah oui, parallèlement à ça, le Seigneur, bien sûr, il est largement au-dessus de ça. Et il suscite Élie. Alors Élie, ça a été un personnage physique au moment des rois. Élie, ça a été aussi l'esprit qui a animé Jean-Baptiste avant la première venue de Jésus. Et l'esprit d'Élie, bah là qu'il annonce, hein, il va aussi être répandu avant le retour de Jésus. Donc Élie, c'est un esprit, enfin c'est l'Esprit Saint, hein, soyons clairs, l'esprit d'Élie, c'est l'Esprit Saint. C'est des facettes particulières de l'Esprit Saint. Et c'est ça qu'on va regarder, parce que l'esprit d'Élie, c'est des caractéristiques propres au Saint-Esprit, mais qui sont pour nous maintenant, dans ce contexte terriblement hostile. Le Seigneur n'est pas du tout, mais alors pas du tout pris au dépourvu. Alors vraiment, vraiment, vraiment pas. Pas du tout, du tout. Et donc, on va regarder un peu ces caractéristiques d'Élie. Alors, soyons clairs, hein, Élie, c'est un personnage énorme dans la Bible. On pourrait y passer, je crois, il y a plein de choses. Ce matin, c'est, il me semble juste quelques caractéristiques sur lesquelles le Seigneur a attiré mon attention. Alors voilà, je vous les communique, sachant que le sujet est très très loin d'être épuisé. Vous voyez ce que je veux dire, soyons très humbles. Hein. Et première caractéristique, après, en plus j'ai demandé, Seigneur, tu me mets un petit peu dans l'ordre les caractéristiques là. J'en ai trouvé 8. 8. Alors, dans l'ordre et... Eh bien, figurez-vous, la première, ce n'est pas forcément celle à laquelle on pense quand on est dans les images d'Épinal d'Élie. La première caractéristique d'Élie, et j'ai des preuves, hein, les Bériens, ils peuvent vérifier, hein, la première caractéristique d'Élie, c'est l'humilité. Ah bon? Ah bon? Ah ben oui, si, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Alors, il faut savoir quand même que Élie, c'est pas du tout un fils d'eux. Vous savez, dans la Bible, il y a des fils d'eux. Alors j'ai cherché, fils d'eux, mais non, on ne dit même pas de qui il est fils, Élie, pas du tout, du tout. Alors est-ce qu'il vient de Jérusalem, de Judée, d'une région bien, quoi, vous voyez, je veux dire, un bon pédigré? Pas du tout. Élie, le Tishbite, alors Tishbite, c'est en Galaad, j'ai regardé, c'est l'actuelle Jordanie, c'est même pas l'actuel Israël, hein, c'est en Jordanie actuellement, et puis c'est une tribu, alors on ne sait même pas s'il est de Manassé ou de Gad, enfin... Voilà, c'est franchement pas... on sait même pas de quelle tribu il est, même pas de qui il est fils. Élie, le Tishbite, c'est trifouiller les oies, quoi, en version française. Trifouiller les oies, Tishbé, vous connaissez Tishbé, vous, hein? Jérusalem, Samarie, on connaît tout ça, mais Tishbé, Élie, le Tishbite. Donc, origine complètement obscure. Et ça, oui, bah oui, c'est... Il se met pas du tout en avant. Et ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois qu'il se présente, il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu que je sers. » Et puis après, il continue. « L'Éternel est vivant, ou l'Éternel des armées est vivant, le Dieu que je sers. » Il y a une très profonde humilité dans Élie. Et tout ce qui l'intéresse, c'est proclamer le nom d'Éternel et élever le nom d'Éternel. Et ça, c'est, ça nous parle vraiment. Et je crois que dans cette période de pandémie, le Seigneur fait une profonde œuvre d'humilité en nous tous, je crois. Luc parlait de dépouillement, on s'est dépouillé de plein de choses. On est passé tous au creuset. Humilité. J'ôterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec arrogance, tout ça. Bah oui, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Dysophonie, bah oui, c'est tout humble et tout petit. Vous avez vu, hein, comme ça, devant une façade qui ressemble à rien du tout. Si ça donne pas, si ça donne pas des leçons d'humilité, cette façade. Je trouve que ça va bien avec Élie, vous voyez. Il faut être très humble avec une façade pareille. Donc, voilà, Élie. Donc, humilité. Et après, une deuxième caractéristique qu'on ne voit pas forcément. Quand on pense à Élie dans nos images d'Épinal, c'est qu'il a vraiment le cœur de Dieu. Vraiment. Et là, je crois qu'aussi, le Seigneur a fait pendant toute cette pandémie une énorme œuvre d'élargissement de nos cœurs, d'attendrissement de nos cœurs. Et où est-ce que je le vois ? La preuve, quand même, je vous donne une preuve, c'est que... Bon, après, on va voir toute cette partie d'obéissance d'Élie, mais le Seigneur l'envoie ailleurs qu'en Israël, hein, il l'envoie au Liban actuel, hein, c'est-à-dire sa Repta, là, c'est-à-dire le Liban, actuellement, et puis vers quelqu'un d'une classe sociale très défavorisée, hein, les veuves, c'est vraiment le fond du fond des classes sociales, quoi. Il n'a aucun souci, hein, pas de préjugés, ni de race, ni d'ethnie, ni de classe sociale, rien du tout, quoi. Et je crois vraiment que le Seigneur nous prépare. Quand je pense à ce bâtiment, c'est évident que le Seigneur va nous amener à travers Caleb AFP, à accueillir des gens de toutes origines ethniques, sociales. Et puis, il s'occupe spécialement, Élie, d'une maman seule, hein, une veuve avec un fils. Ça nous parle aussi d'un cœur pour les personnes, les mamans seules. Il y en a plein dans notre école, hein. C'est pas facile du tout. Et puis la jeune génération. Alors là, je vous ramène à Luc, hein, pour tout ce qui est l'attention d'Élie pour la jeune génération, avec, vous savez, quand il s'est couché sur l'enfant, une grande attention, un énorme cœur. Élie, c'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur, pour, évidemment, pour Dieu. Il aime son Dieu de tout son cœur. Il aime son peuple, parce qu'il souffre de le voir vautrer dans les balles. Et il aime les pauvres, les étrangers, les démunis, vous voyez. Et je crois que vraiment, Élie, c'est un homme de cœur, un grand, grand homme de cœur. Un homme de respect aussi. On verra avec Acab, il respecte toujours l'autorité. Il dit les choses, mais il respecte l'autorité. Et donc voilà, le Seigneur a élargi nos cœurs dans toute cette période. Bah, ça fait partie de la préparation, hein, dont vous parliez. Et puis c'est, oui, c'est ça. Après, il y a quelque chose d'énorme avec Élie. Et là, je pense qu'on est en plein dans cette préparation-là. C'est l'alignement avec la parole. Et la connaissance intime, une marche personnelle intime avec Dieu. Élie dit ce que Dieu dit, point final. Ça veut dire qu'il écoute, il entend, il obéit, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes, il dit ce que Dieu dit. Et là, il y a un verset fort, Jérémie 15, 19. « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Ça, c'est une promesse énorme, mais voilà. C'est pour ça que Éric Péchin nous entraîne sans arrêt, processus de repentance, 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 repentance. « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Ça veut dire que tu auras la puissance de ma parole. Mais il y a un coût à payer, c'est le processus de repentance. Et on est tous dedans, normalement, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Et puis ça parle d'une une connaissance intime, ça parle d'une marche avec Dieu journalière. Et il y a un homme qui a fait ça, Enoch, qui a eu d'ailleurs le même destin qu'Élie, hein, il n'est pas passé par la mort. Une marche, une communion, un alignement avec Dieu aussi. Le cœur d'Élie battait au rythme du cœur de Dieu. Il disait ce que Dieu disait. C'est vraiment un homme de radical, quoi. Alignement radical. Et quand Dieu lui dit, tu parles à un tel, c'est-à-dire à Acab, ou Jean-Baptiste, tu parles à Hérode, puisque c'est le même esprit, il fallait oser, quoi. Il y a un prix à payer. Tu parles, même si c'est risqué, même s'il y a un prix à payer, même si tu dois dire la vérité. Vous voyez, ce courage de dire, Dieu m'a dit de dire, donc je dis. C'est obéissance à quel que soit le prix, quoi. Et puis, donc ça, c'était une autre caractéristique, c'est un homme de prière, d'obéissance et de disponibilité totale. Et là, je peux vous dire, il y a une jeune génération, j'étais impressionnée, il y a au moins deux cas récents, des jeunes adultes, totalement disponibles. Ils ne savent même pas où ils vont être dans les prochains mois. Ils disent, Seigneur, tu m'envoies où tu veux. Il y a une disponibilité dans cette jeune génération qui se lève, qui est impressionnante. Tu m'envoies où tu veux. Voilà, je suis à ta disposition. Je ne sais même pas où tu vas m'envoyer, mais je suis à ta disposition. Et Élie, c'est ça. Le Seigneur l'envoie là. Il est absolument disponible. Il est tellement disponible, d'ailleurs, que le Saint-Esprit l'enlevait, l'emmenait ailleurs, et puis tout le monde le cherchait, puis il allait... Voilà, ça, c'est vraiment un niveau de disponibilité extraordinaire. Mais bon, la jeune génération, préparez-vous. Hein, je crois que c'est bon. Ouais, ça va venir, hein, ça. Donc... Et une prière, c'est une prière. La prière d'Élie, c'est une prière qui est pas une prière. Enfin, c'est une prière. Jacques 5, 16, 18 en parle. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il parle juste après d'Élie. Hein. La prière fervente. La prière fervente, c'est un mot qui veut dire energeia en grec, hein, énergique, opérante, active du juste a une grande force. En grec, c'est force, un grand pouvoir. Et alors, en parlant de cette prière, parlant de cette prière, pourquoi Élie a-t-il prié pour qu'il ne pleuve pas? Enfin, c'était terrible, les récoltes, tout ça, il n'y avait plus rien. Enfin, c'est abominable de prier pour qu'il ne pleuve pas quand même. À votre avis, alors bon, je vais vous dire, pourquoi il a prié pour qu'il ne pleuve pas, franchement? Eh bien, il faut savoir que Baal était une divinité climatique. C'est-à-dire que les gens le priaient pour avoir la pluie. Et donc, c'est là vous avez Élie qui a fait exactement la même chose que Moïse. Il a confronté les divinités adorées par le peuple pour dire maintenant, arrêtez de vous confier là-dedans, quoi. C'est pas ça qui marche. Sachez, enfin, est-ce que vous voyez qu'actuellement, avec la pandémie, le Seigneur fait exactement la même chose? Vous vous confiez dans la science, dans la technologie, dans les moyens humains. Eh ben, c'est raté, ça marche pas du tout. Et tout ça, c'est par amour, c'est parce qu'il veut ébranler les fausses sécurités. C'est exactement la même chose. Élie, il fallait qu'elle soit ébranlée, les fausses sécurités, on prie Baal et puis il pleut, quoi. Ça marche pas. Donc c'était ça, la prière d'Élie, c'était montrer l'impuissance des Baals, comme les plaies d'Égypte, et comme ce qu'on vit actuellement. Et puis, c'est un homme incroyablement persévérant dans la prière, hein. Incroyablement persévérant. Alors, il y a des preuves aussi, pour l'enfant de la veuve, là, trois fois de suite, il s'allonge, il persévère, il lâche pas le morceau. C'est un homme, l'impression, il tient les cornes de l'autel et il lâche pas jusqu'à ce que. Il lâche pas. Et puis pareil pour la pluie, attends, 7 fois il envoie, retourne voir s'il y a rien sur la mer. 7 fois le gars, 7 fois il envoie son serviteur, obéissant le serviteur aussi, hein. Il a dû choisir un serviteur adapté. 7 fois, tu retournes. Non, on n'a rien, c'est bleu. Encore, tu retournes. Et puis pendant ce temps, il priait, Élie, hein, il s'accrochait. Seigneur, tu m'as dit qu'il allait pleuvoir, il va pleuvoir. Encore, 7 fois. Mais quelle persévérance, les amis. Alors nous, on a un peu persévéré. Là, on persévère depuis, un an, hein, pour un an et demi, pour les locaux, là. Mais bon, voilà, il y a un modèle, Élie. On persévère, hein, Heinz, pour les travaux, on persévère, on s'accroche, on continue, on lâche pas prise. Ça, c'est de la persévérance, hein. Pouh. Et puis, fidélité à la mission reçue. Voilà. Il est fidèle. Dieu lui dit quelque chose, Dieu peut lui faire confiance. Si Dieu lui donne une mission, il va le faire. Il va aller jusqu'au bout de la mission. Donc, mais c'est quand même fort tout ça, hein. C'est vraiment fort. Et après, alors une caractéristique là, c'est, je vais m'attarder un peu parce que c'est, vous auriez jamais pensé à celle-là, je suis sûre. Je sais pas. Alors si je vous dis que Élie, c'est un bâtisseur et un rassembleur, ça vous parle? Vous comprenez le pourquoi? Élie est un bâtisseur, j'insiste. Élie est un bâtisseur. Nous sommes des bâtisseurs. Élie est un bâtisseur et un rassembleur. Élie est un bâtisseur. J'ai des preuves. Hein. 1 Roi 18, vous lisez 1 Roi 18. Il bâtit. Il bâtit quoi? Un hôtel. Petite question. Quelle est la première personne dans la Bible qui a bâti un hôtel? Vous avez les deux mêmes mots. D'ailleurs, bâtir, ça veut dire aussi rassembler une famille. Hein. Il y a une notion de famille dans bâtir. Donc, quelle est la première personne? Oui, mais Manu, tu ne devrais pas... en tant que responsable... Non, mais si, mais tu as raison. Bravo, Manu. Oui, c'est Noé. Noé, il bâtit un hôtel. Voilà. Donc, il bâtit son hôtel. Mais alors, dans quelles conditions il bâtit son hôtel? Eh bien, c'est comme Noé. Noé, c'était un contexte hyper hostile. Vous savez, le gars, personne ne croyait en lui. Il prédisait la justice, mais personne n'y croyait. Eh bien, Élie, c'est pareil. Alors, imaginez. Alors là, franchement, je me sens bien. Là, Élie, vous avez un vacarme épouvantable. Les prophètes de Baal qui gesticulent, qui font du tumulte. C'est la recherche du sensationnel, de l'émotion. Ça vous parle, les médias, là? Ça vous dit quelque chose? Les médias, le sensationnel. Et puis, oh là là, ça devient grave, ça devient gore, comme vous dites. Ils se prennent des trucs et puis ils se font des incisions et le sang coule. Oh là là, le sang coule, c'est terrible, ça. Le sang coule. Quel spectacle, les amis. Oh là 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 là. Et c'est bruyant et c'est tumultueux et ça dure. Ça, c'est le côté sensationnel. Et puis, Élie, alors, devant ça, alors, il est incroyable, Élie. Pendant très longtemps, j'ai dit, mais Seigneur, quand même, ça se fait pas de se moquer. À mes élèves, je leur dis, on se moque pas. On se moque pas, hein. C'est pas bien de se moquer. C'est dangereux, la moquerie. L'ironie, la moquerie, c'est pas bien. Et après, tout récemment, j'ai eu une révélation. Pourquoi Élie s'est moqué? Mais Élie était aligné avec Dieu. Psaume 2, Dieu se moque de ses ennemis, il rit de ses ennemis, et bien Élie fait pareil. Et remarquez bien, grosse nuance, Élie ne se moque pas des gens. Les gens, c'est des créatures de Dieu, on ne touche pas, hein, les gens, c'est des créatures humaines. Il se moque de quoi? Ben, des comportements, il se moque... À mon avis, Élie, il a dû faire le clown. D'ailleurs, moi, je trouve que, franchement, ça manque de rire et ça manque de clown chrétien dans le monde chrétien. Personnellement, je trouve que, d'ailleurs, c'est une formation... Bref, une formation de clown chrétien, franchement. Alors, imaginez, il a dû faire le pitre, hein. Baal est en voyage, il dort. Il faut peut-être le crier plus fort pour le réveiller. Il a dû faire son pitre, vous voyez, en mimant les Baals. Mais franchement, on a besoin de ça, au lieu de faire une mine comme ça, encore un isme qui nous tombe dessus avec des idéologies pas possibles. Je ne fais pas de dessin, mais il y a des idéologies. Mais on se dit, mais d'où ça sort, ça? C'est pas possible. Mais il faudrait en rire. Dieu en rit. Dieu se moque de ses ennemis. Et ça nous met, on est au-dessus. On est assis dans les lieux célestes, on regarde, on dit, oh là là, oh là là. Et puis on rit. Et franchement, ce rire de la foi d'Élie, il est extraordinaire. Donc Dieu, Élie se moque. Et je trouve ça, il y a quelque chose à creuser. Je vous le donne juste comme ça, mais il y a franchement quelque chose à creuser dans la moquerie de Dieu, de ses ennemis. Nous ne rions pas assez. C'est un rire de foi et c'est un rire qui dit la victoire finale de Dieu, quoi. Donc, il est aligné avec le ciel. Et puis, il ne se laisse pas impressionner par le nombre, hein. Parce que quand même, 400 plus 450 égale 850. Entre les prophètes de Baal et les prophètes de, je crois, Astarté, il y en avait 850 en face de lui quand même, lui tout seul. Donc c'est à peu près, à mon avis, le ratio qu'on a en ce moment entre les chrétiens réveillés, prophétiques, et puis les ismes et puis les partisans des ismes. On doit bien avoir ce ratio-là. Pas du tout impressionné par le décalage numérique, mais alors vraiment pas impressionné. Parce que, et bah oui, c'est ce qu'il voulait, c'était que le nom de Dieu soit élevé, quoi. Et puis il avait une mission, et puis il fallait qu'il aille au bout de sa mission. Et puis au verset 30, 1 Roi 18, verset 30, alors un mot extraordinaire. Il rétablit l'autel. Vous savez ce que c'est ce mot? Il rétablit l'autel. Rapha, il guérit l'autel. C'est le même mot que Adonai Rapha, l'Éternel guérit. J'ai vérifié, hein. Il guérit l'autel. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là. Il guérit l'autel. Et après, au verset 32, bon, il rassemble les pierres, les 12 pierres. Alors, 12 pierres pour 12 tribus, ça parle de rassemblement. Et actuellement, l'Esprit de Dieu, il rassemble les chrétiens à travers les nations, à travers les onctions. Il va rassembler à Bulle, signe très prophétique, je sais pas combien de nations, hein, plusieurs nations, oh là là, plein de nations, dans la maison de Bulle. Il va rassembler plein de nations, mais aussi des onctions différentes, plusieurs onctions, plusieurs ministères, plusieurs générations, hein, vous avez vu ça? Donc c'est un signe prophétique. Il rassemble, il bâtit, et c'est exactement ce que fait le Seigneur, il bâtit. Et donc on ne se laisse pas, et je crois que le Seigneur nous appelle, ne vous laissez pas impressionner par l'agitation ambiante, tous les balles qui s'agitent dans tous les sens, le sensationnel, le spectacle. Continuez comme Noé, bâtissez, bâtissez, bâtissez. On bâtit l'église, on bâtit le réseau Mathurin Cordier, on bâtit les associations dont on s'occupe. On bâtit, on bâtit, on bâtit, sans se laisser impressionner. Ça, c'est très important et c'est exactement le message de Noé. Voilà. Et puis, ah oui, quelque chose de très important aussi, vous remarquez qu'Élie n'est pas du tout à Lévite. Pas du tout, on ne sait même pas de quelle tribu il est d'ailleurs. Mais certainement pas, non, il n'est pas Lévite, quoi. Il n'est pas sacrificateur, il n'est pas de la descendance d'Aaron, en tout cas, ce n'est pas du tout dit. Et il sacrifie quand même un taureau. Donc on voit bien qu'on est dans une autre dimension de sacrificature, qui n'a rien à voir avec celle de Moïse, de la loi mosaïque. C'est une autre dimension, mais il comprend pleinement la valeur du sang. Ça, je vais passer rapidement, mais la valeur du sang, le sang de Jésus, on ne peut rien faire sans le sang de Jésus et sans l'autel. On est dans une guerre d'autel, France en feu, je vous ramène tous à France en feu. On est dans une guerre d'autel intense, très, très, très intense. Il y a plein d'autels dans le Florival qui sont déjà en train de s'embraser. Et puis, ça va s'embraser de plus en plus. Et après, ce sera une grande flamme collective. Et de ce lieu, ça a été prophétisé, hein, que dans le naturel, quand je suis arrivée à Guébulaire il y a 23 ans, là, il y avait un immense rayon de lumière, hein, qui sortait de là. Et c'est absolument prophétique de ce feu qui doit jaillir d'ici. Ça, c'est sûr. Il y a un feu. On est dans une guerre d'autel et il faut en être conscient, quoi. Donc ça, je passe rapidement. Il y aurait tellement, tellement, tellement de choses à dire sur les autels. Mais ça, c'est les autels, le sang de Jésus, tout ça, c'est incontournable. Mais il faut creuser tout ça. Et voilà, voilà. Et je termine avec la dernière caractéristique, c'est le feu. Évidemment, on ne peut pas. Élie, c'est le feu. Élie, eh ben, le feu est venu du ciel, mais pourquoi ? Il était lui-même en feu. Le feu attire le feu. Il était en feu pour son Dieu, c'est évident. Il était rempli du feu de l'esprit. Les langues de feu, lui, il était rempli de ce feu d'acte 2, quoi. Complètement rempli. Et c'était plus lui qui vivait. Comme dit Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il était rempli de ce feu. Et c'est un feu qui... Bon, désolé David, hein, mais c'est vrai, c'est un feu qui consume le vieux, qui libère. J'ai vu Angela, elle est extraordinairement rayonnante et libérée. Donc c'est un feu qui consume, c'est un feu qui libère, c'est un feu qui purifie, c'est un feu qui prépare pour le nouveau, c'est un feu qui élargit, c'est un feu qui remplit de vie. C'est comme le feu du buisson ardent, c'est pas le feu qui détruit, qui fait du mal. C'est un feu de révélation, c'est un feu du nouveau. Donc il y a une onction de feu qui vraiment, vraiment est en train de venir sur le peuple de Dieu. C'est en train de grandir. Hein. Et c'est tout petit, petit, mais c'est un peu comme les petits nuages. Hein. C'est en train, il y a le feu, il y a l'eau, la pluie, mais c'est en train de... C'est tout petit, petit. Et on dit, waouh, ça vient, ça vient. Et alors moi, je m'appelle aussi Anne, vous savez, et les Anne, leur spécialité, c'est quand on voit un tout petit début, on dit, là, il y a quelque chose de très, très, très grand, ça vient, ça vient, ça vient. Et pour vous dire, il y a une onction de feu qui vient sur la jeune génération. Alors, elle vient sur la jeune génération en Israël. Ils vivent des trucs de malades en Israël. On le suit régulièrement ce qui se passe en Israël. On est branché Israël, là. Ils vont dans le désert. Ils passent des nuits d'adoration. D'ailleurs, les jeunes, si vous voulez aller en Israël, des nuits d'adoration dans le désert avec les Arabes chrétiens, les Juifs messianiques, la jeune génération, ensemble. Imaginez un hôtel, des hôtels d'adoration dans le désert. Ils vivent des choses extraordinaires et c'est vraiment l'onction d'Élie, ça. C'est Jean-Baptiste, si vous voulez, hein. Dans le désert comme ça, ils vivent des choses extraordinaires. Et puis cette onction de feu, elle vient sur nous, sur notre jeune génération en France. Et je peux vous le dire, parce que ça fait 12 ans que je suis professeur de lycée et je vois le feu qui grandit. Je vois le feu qui grandit, réellement. C'est-à-dire la radicalité, la passion pour Jésus, pom, 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 ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est une radicalité aussi. Ils sont radicaux. C'est du 100%. Et c'est des amoureux de la présence de Dieu dans cette jeune génération. Et nous, on est très impressionnés. Et on dit, Seigneur, c'est cette génération, elle vient à toi comme une rosée. C'est ta génération, patouche. Nous, avec nos petites pattes humaines, là, non, 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 c'est à toi. Et maternelle y compris, hein, les maternelles, waouh, il y a un feu de louange, un feu d'adoration aussi, il y a quelque chose de très 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 fort. Et je crois que les écoles chrétiennes sont appelées à être des lieux de feu, des lieux de louange, des lieux, waouh, c'est énorme ce qui vient dans nos écoles chrétiennes. Et il y a une multiplication, ça passe par un prix à payer, ça veut dire... il faut qu'ils grandissent, que je diminue. C'est exactement Jean-Baptiste, Élie, plus moi, lui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout ça. Et puis laisser le feu passer dans nos vies. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Une dernière remarque, avant peut-être qu'on prie par rapport à ça. Mais on ne peut pas parler d'Élie sans parler de la déprime d'Élie. Enfin, rapidement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein. Mais il y a un antidote. Et c'est Fabienne Ponce qui nous a bien dit... Pour la France, oui, 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 onction d'Élie. D'ailleurs, je peux vous dire, hein, ceux qui n'étaient pas là, on est allé sur le Mont Carmel en 2011. Je peux vous dire qu'il y a une onction de malade sur le Mont Carmel. On a été pris par cette onction. Je peux vous dire, on était hors de nous, quoi. Hors de nous. Qu'est-ce qui est... Ah oui, Martine était. Enfin, on était plusieurs. On était hors de nous, quoi. Je veux dire, c'est... Je peux vous dire. On a envoyé des missiles, je dis bien des gros missiles intercontinentaux sur la France partant du Mont Carmel. Et je peux vous dire, hein, les ismes, les balles, ils en sont pris plein la tête. Waouh, c'était puissant, c'était un hôtel. Il y a un hôtel d'adoration permanente quand même, hein, sachons-le. Il y a une maison de prière en permanence sur le Keilat Mont Carmel. Hein, et tous les mercredis, on entend la parole qui vient de Mont Carmel. Hein, c'est très, très, très puissant. Et je peux vous dire, c'est archi. L'hôtel est toujours là et l'hôtel est toujours actif. Et France... Israël, là on est hyper connectés parce que Élie c'est pour nous. Mais je vous rassure, pour qu'on ne soit pas tous en déprime, il n'y a pas que l'onction d'Élie. Ouf, il y a aussi l'onction de Jean. Et ça, c'est Fabienne Ponce qui nous explique ça. Enfin, tout le monde nous dit ça. L'onction de Jean, eh ben, vous savez ce que c'est. Hein, c'est la communion fraternelle. Donc surtout, 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 Élie, ne jamais rester seule. Parce que quand il y a les Baal et Jazéabel en face, c'est pas drôle du tout, du tout, du tout. Et on a absolument besoin des uns et des autres. Donc communion fraternelle très rapprochée. Et je crois que plus les temps d'Élie vont venir, je rappelle que c'est la thématique de la fête des tabernacles de Jérusalem de cette année, qui sera à la fois en Zoom et en présentiel. Les jours d'Élie. L'année dernière, c'était préparer le chemin. Cette année, c'est les jours d'Élie. Alors, on va l'entendre parler. Élie, c'est peut-être un premier message, mais je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Élie de tous les côtés, et y compris de Jérusalem, les jours d'Élie. Donc, oui, c'est assez extraordinaire. L'onction d'Élie et l'onction de Jean. Donc, plus on va être là-dedans, et plus la communion fraternelle va être intense, ce sera un extraordinaire moyen de rester vivant, alors qu'on confronte, de se laisser guérir quand on aura reçu des petites flèches comme ça. Et j'en sais quelque chose. Hein. Et merci Seigneur pour les sœurs et qui sont toujours là pour prier quand on s'est pris des petites flèches là. Mais soyons très 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 resserrés. Ça, c'est indispensable vu les confrontations qui sont devant nous. C'est évident. Très très voilà. Et donc je propose qu'on puisse prier pour humblement accueillir cette onction, hein, cette onction d'Élie, cet esprit d'Élie, parce que le Seigneur veut la déverser sur son peuple, c'est sûr. C'est très puissant. Je ne sais pas où ça va nous conduire, ça c'est sûr. Et il veut le faire. Il veut le faire. Et voilà. Vous êtes d'accord qu'on prie? C'est dangereux un peu comme prière, hein, mais bon, on n'a pas tellement le choix. Hein. Il y a un immense désir dans le cœur du Père de voir cette onction d'Élie restaurée dans le corps de Christ. Nous avons une responsabilité pour accueillir cette onction et la désirer, la chérir, la rechercher. Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est un frère indonésien via Jérusalem. Hein. Et ouais, c'est l'esprit qui parle au niveau international. Seigneur, dans ce temps de rendez-vous divin, devant nos locaux qui nous gardent très humbles, après tout ce temps de profond travail dans nos vies à nous tous, par toutes sortes de moyens, tu as travaillé nos vies, y compris par le feu, sous toutes ses formes. Seigneur, on se retrouve là, devant ces locaux, et on sait qu'il y a... On ne sait pas ce qu'il y a, en fait. On ne sait même pas du tout ce qu'il y a. Mais on sait, comme a dit Luc, l'humilité précède la gloire. Il y a une gloire, mais c'est une gloire avec du feu. On ne sait pas ce que c'est. Mais ce qu'on veut, c'est ta présence. Ce qu'on veut, c'est ta présence. Ce qu'on veut, c'est que nous, on ne soit pas vus. Nous, on est une génération sans visage, sans nom. Que ce soit toi qui sois vu. Que ce soit ton cœur qui soit manifesté, que ce soit ta parole qui soit proclamée, juste toi et pas nous. Qu'on soit ces canaux remplis d'huile qui alimentons l'immense menorah que tu veux dresser sur ce monde. Une menorah qui éclaire, une menorah avec les sept esprits de l'Éternel. Et qu'on soit ces fils de l'huile, remplis de cette huile d'onction. Alors Seigneur, continue à nous débarrasser des scories, de tout ce qui empêche l'huile de couler, attise dans nos cœurs la soif de toi, le désir de toi, durant cette période d'été, attire-nous vers toi et continue à opérer dans ce processus de repentance, de purification, continue à nous préparer pour ce qui est devant, continue à nous rassembler, continue à faire de nous des bâtisseurs zélés. Quelles que soient les circonstances extérieures, quel que soit l'environnement, Seigneur, donne-nous ce zèle de bâtir, aligné avec toi et ensemble. Merci Jésus. Amen. Il y en a qui veulent prier, compléter.
Et aussi,